Nous entendons en Ézéchiel un texte absolument incroyable pour deux raisons. La première, c'est que jusque-là, Ézéchiel était amené à prophétiser le massacre. Vous vous êtes mal tenu, je vais vous écrabouiller. C'était à peu près le, ou vous faire écrabouiller, c'était à peu près le discours que nous entendions jusque-là. Et c'était un discours d'une certaine manière assez humain, dans le sens où quand quelqu'un veut se venger dans ce monde-ci, il essaie d'exterminer, de dominer, d'asservir, de faire souffrir, enfin tout un tas de subtilités qui sont très, bah, très humaines. Enfin, voilà. Et là, nous découvrons un Dieu assez étonnant, un changement de ton. Dieu dit, en fait, puisque vous m'avez profané, je prendrai soin de vous. Alors, on s'attend à ce qu'ils disent, puisque vous m'avez profané, vous allez vous faire rétamer. Et Dieu dit exactement l'inverse. Vous m'avez profané, moi j'irai vous chercher, je vous ramènerai, vous reviendrez. Voilà. On a un peu l'impression, c'est un peu vulgaire ce que je vais dire, vous savez, des petits chiens qui aboient avec l'air de dire avancez pas ou je recule, quoi. Et donc ça fait pas très très sérieux. Et là, on a quelque chose qui doit nous laisser quoi? Parce que qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui pour se venger de profanation, va soigner, va chercher, va réparer. Et alors, c'est bouleversant en Ézéchiel parce qu'il dit ah, vous m'avez profané, eh bien, par vous, je vais me grandir. Voilà, comment Dieu veut passer par nous. Il veut rassembler. Rassembler, c'est un geste de puissance. Tandis que diviser est un geste de faiblesse. Diabolein, ça veut dire le diviseur. Rassembler, c'est un acte de puissance. Donc c'est évidemment un texte extrêmement prophétique. Puisque rendre le bien pour le mal, c'est ce que Jésus vivra. Bon, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Mais là, c'est Dieu qui montre comment il faut faire. Donc c'est... On a l'impression d'une disproportion, si vous voulez. L'impression d'une disproportion entre ce qui a été fait et c'est comme si Dieu voulait ne pas tenir compte du mal, ou plutôt en tenir compte, en disant, puisque vous avez fait mal, moi je vais faire 10 fois mieux, mais avec vous en plus. Et voilà, ça peut nous laisser vraiment, si ça pénètre en nous, ça nous laisse pour le moins étonnés. Alors dans l'évangile peut aussi nous laisser très étonnés, parce que c'est quand même assez bizarre. Donc il y a une comparaison avec le royaume de Dieu, hein. C'est une parabole, c'est encore une parabole. Je rappelle que parabole en latin ça se dit similitudo, donc une similitude, une comparaison. Et en hébreu, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, comme ça veut d'abord dire pas comme. Pour nous comme ça veut quasiment dire identique, en hébreu ça veut dire c'est pas pareil. C'est un peu ça, mais c'est pas pareil. C'est ça, une parabole. Donc c'est une parabole extrêmement curieuse, du fait de la violence qu'il y a. Enfin, des noces où il y a de la violence, c'est quand même assez singulier. Et c'est des noces qui commencent par une colère, quoi. Enfin, qui commencent pas par une colère, mais le roi invite tout le monde. Et les invités se débinent. Et le roi pique une colère. Et c'est étonnant. Espèce de vengeance, là, pour le coup. Ça, on se dit, bon, En fait, si on regarde le texte d'un peu près, on s'aperçoit que ce que Dieu va venger, ce sont les meurtriers. Alors, ça nous montre des choses que l'on entend déjà dans l'Ancien Testament, c'est que le mal attire le mal. Les gens qui vivent dans le mal se font de plus en plus mal. Je sais pas comment dire ça. Donc en tout cas, on a une colère au milieu de noces. Donc c'est très très bizarre. Et puis les gens sont contraints finalement de rentrer. On prend tout le monde, on prend tout ce qui passe. Et c'est un kidnapping, hein. Les gens, ils sont kidnappés en fait, hein. C'est pas si vous voulez, il y a un truc sympa à côté là, vous venez. Non, non, tu viens ou tu viens, c'est en mode shérif américain, quoi. Donc c'est un kidnapping. Et le roi rentre dans la pièce et il en trouve un qui est pas bien habillé. Oh, c'est un petit peu dingue. Parce que il a été pris comme il était, quoi. Excuse-moi, je n'ai pas eu le temps de me changer. Enfin, il aurait même pu dire ça. Or, il va se passer autre chose, je vais y venir. Et puis la finale, qui est aussi extrêmement curieuse, beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. En fait, ils ont tous été pris de force et non pas appelés, et il n'y en a qu'un qui a été viré. Donc c'est vraiment un mode parabolique. On est vraiment dans de la parabole. Je ne sais pas si Jésus en a donné d'autres qui soient aussi, j'allais dire, décalés. Et au fond, cette parabole a ceci de singulier, à mon avis, qu'elle est prophétique. Toutes les paraboles ne sont pas toujours prophétiques, elles sont faites pour faire comprendre. Celle-là, elle est d'une violence qui ne nous laisse pas indifférents. On se dit, mais c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Et en fait, je pense que cette violence verbale, qui est tellement inhabituelle, elle prophétise la ruine de Jérusalem. C'est la manière dont Jésus leur dit, vous ne voulez pas accueillir le royaume de Dieu, vous allez être détruits. Voilà. C'est ainsi, c'est ce qui va vous arriver. C'est pas moi qui vais vous détruire, mais les choses vont faire que vous allez être détruits. Donc je pense que ça, c'est la première partie qui explique le massacre, là. Et puis, il y a le reproche de l'habit, et à mon avis, lui, il est extrêmement symbolique. Alors, les pères de l'Église ont parlé du vêtement du baptême, voilà, on peut, bien sûr, hein, s'ils l'ont dit, c'est que l'Esprit Saint leur a montré ça. Pour ma part, j'aurais été encore en amont, si je puis dire. C'est-à-dire que les gens. Et ça figure chacun de nous, hein. Nous sommes cueillis n'importe où et n'importe quand. Et nous serons examinés, chacun sera examiné comme il est. Les mauvais comme les bons. Voilà, l'heure a sonné, tout s'est arrêté, tu as fait quoi, toi? Et c'est frappant parce que on s'aperçoit justement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le bonhomme là qui est interpellé par le roi, il ne se défend pas. Il ne cherche pas d'excuses. Il pourrait dire, écoute, enfin, je suis confus, il pourrait se jeter à ses genoux, prends pitié de moi. Il pourrait dire, voilà, je n'ai pas de quoi me changer, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Et en fait, le texte ne dit pas, il garda le silence. Parce que c'est pas du tout ça. En fait, ce qu'il fait, c'est le verbe utilisé, c'est fimo. Et fimo, ça veut dire museler, mettre une muselière. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si cet être ne pouvait pas répondre. Il ne peut pas rendre compte de ses actes. Il peut plus, quoi. La mâchoire est bloquée. Alors, soit il est tétanisé, soit il est, on ne sait pas quoi. En tout cas, ça peut laisser fleurir l'idée que ses actes l'ont sclérosé, que sa vie l'a sclérosé, et qu'il n'est même plus capable de demander pardon. Alors ça nous parle un peu du purgatoire. Hein. Au purgatoire, on ne peut plus rien faire. Hein. On peut juste attendre, sécher. Les autres peuvent prier pour nous, mais nous, c'est réduit, quoi. Donc voilà, je pense que ça peut évoquer cette idée-là. Donc quand je dis que c'est antérieur au baptême, c'est une suggestion, hein, même pas une opinion, c'est une suggestion. C'est dire, tout le monde va mourir. Vous avez peut-être jamais remarqué, mais 100% des vivants, sur Terre vont mourir. Hein. Et il n'y a pas que les chrétiens qui vont mourir, il y a aussi les autres. Et les autres aussi, ils seront examinés. Et on leur dira, alors, tu as fait quoi, toi? Voilà, donc ce goût de la vérité, de chercher ce qui est vrai en conscience, de discerner en conscience, me vient à l'esprit ces gens ce couple qui a eu un enfant, et devant cet enfant, ils se sont convertis. Ils ont dit, non, c'est pas nous qui avons fait ça. Vous voyez, cette capacité de la conversion en regardant, en écoutant. C'est extrêmement important, hein, surtout de no à notre époque. Hein. Voilà, on voit quelque chose et on se dit, non, non, attends. Bon, mais ça, c'est. Évidemment, c'est un fruit de la grâce. Mais ce n'est pas le fruit du baptême, il n'est pas encore là. Hein. Et puis alors la finale. La finale est assez étonnante. Il y a un jeu de mots, hein, clétoï et éclectoï. Donc clétoï, ça veut dire, c'est pas appeler clétoï en soi, c'est cueillir. Nous sommes tous cueillis. À un moment, le roi vient cueillir tout le monde. Et puis il y a choisir. Alors, on pourrait se demander qui a choisi au fond. Est-ce que c'est Dieu qui choisit ou est-ce que c'est nous qui choisissons? C'est une vraie question. Et en fond, ça peut nous passer, poser cette question de dire, et toi, au fond, tu choisis quoi? Le jour où tu seras cueilli, probablement à l'improviste, mais c'est pas sûr. Tu auras quoi à présenter? Alors, la petite Thérèse dit, moi, j'aurai les mains vides. Oui, ça veut dire, j'ai pas thésaurisé, j'ai pas fait de provision, mais en attendant, sur Terre, elle n'a pas tout à fait chômé, quoi. Voilà. Donc n'hésitons pas à faire le bien autour de nous, à venir le déposer devant l'autel, à la messe du dimanche. Un jour, il faudrait parler de l'offertoire, un moment tellement capital qui est tellement négligé aujourd'hui. L'offertoire, c'est le moment où on vient déposer tous les actes qu'on a faits dans la semaine. Seigneur, je t'offre tout ça. Et donc on va pas faire des actes de charité, j'ai pas besoin, moi je n'ai pas besoin de la messe, j'aime mon prochain. Oui, ben c'est bien d'aimer ton prochain, mais en attendant tu ferais bien d'offrir tout ça à Dieu, parce que ça vient de Dieu aussi, et lui rendre grâce et le louer. Bon voilà, un jour il faudra parler de l'offertoire. Eh bien, puissions-nous être trouvés... riches de nos mains vides le jour où nous serons cueillis. Amen.